Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Corentin Mansois et Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, réalisée par Rafik Zénine et mise en onde ce matin par Jordan Fuentes. Dernier volet de notre série consacrée aux épidémies. Lundi, c'est la résurgence de la rougeole causée par les méfiances antivaccinales qui nous occupaient. Mardi, nous nous intéressions à la lutte contre le sida VIH. Hier, à la crise des opioïdes aux États-Unis. Place aujourd'hui au choléra.
Les docteurs qui travaillent ici sont toujours inquiets parce qu'il y a encore des nouveaux cas et qu'il faut les arrêter. J'espère que nous allons y arriver. Le plus important est que mon équipe et moi-même soyons sur le terrain pour parler aux gens et conseiller sur les précautions qu'ils doivent prendre. Je suis sûr que nous allons l'arrêter.
Nous avons 900 000 doses de vaccin dans cet avion, ce qui devrait couvrir exactement le même nombre de personnes. C'est donc plus que la ville de Beira elle-même, la ville de Beira qui compte 500 000 habitants et les quartiers les plus touchés.
Le but est d'arrêter l'épidémie de choléra le plus vite possible grâce à l'action combinée d'une campagne de vaccination, mais aussi d'un travail garantissant l'accès à une eau potable et améliorant le système d'assainissement.
Sévèrement touché par le cyclone Idai, le Mozambique affronte désormais une épidémie de choléra. Avec l'aide d'organisations internationales, les autorités locales ont pu lancer une impressionnante campagne de vaccination après avoir reçu 9000 doses de vaccin le 2 avril dernier. Les images des rues de Beira, la troisième ville du pays, plongée sous plusieurs mètres d'eau à la suite de la catastrophe naturelle, avaient de quoi inquiéter, compte tenu du lien ténu entre choléra et mauvais accès à l'eau potable. C'est ce mauvais accès précisément couplé à une série de graves erreurs commises par l'ONU qui avait également provoqué la terrible épidémie de choléra qu'a connue Haïti entre 2010 et 2018 à la suite du séisme. Au Moyen-Orient, les Yéménites se battent aussi contre la maladie depuis de longs mois, les destructions de la guerre et un accès aux soins raréfiés s'ajoutant aux mauvaises infrastructures du pays. Alors comment lutte-t-on contre le choléra aujourd'hui? Les vaccins sont-ils la solution miracle? Comment penser la lutte contre le choléra sur le long terme? Suffit-il de garantir un accès à l'eau potable pour l'éradiquer? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons deux invités. D'abord Martin Leménager, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable d'équipe projet eau et assainissement à l'Agence française de développement et la question de l'eau, elle sera évidemment centrale dans nos discussions aujourd'hui. À vos côtés, Renaud Piarou, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste du choléra, vous êtes professeur à la faculté de médecine de la Sorbonne, également membre de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique rattaché à l'Inserm, et puis également chef de service à la Pitié-Salpêtrière, et vous signez un ouvrage qui vient de paraître en janvier dernier. Choléra, sous-titré Haïti 2010-2018, histoire d'un désastre qui est paru aux éditions du CNRS. Évidemment, Haïti, on en parlera également. Mais d'abord, commençons avec le Mozambique. Renaud Piarou, j'ai un petit peu de mal ce matin. On va commencer avec vous. Près donc d'un mois après le passage du cyclone Idai, plusieurs centaines de cas suspects de choléra ont été enregistrés. La semaine dernière, les autorités ont fait état de 2000 cas, dont 2 cas mortels dans la ville de Beira. D'autres bilans font état de 3000 cas, dont une dizaine de personnes mortes. Il y a un certain flou, Renaud Piarou, autour des estimations de cas de choléra. Certains acteurs humanitaires laissent entendre qu'il y aurait peut-être une sous-évaluation. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la situation et quel danger concrètement représente le choléra dans ce pays où les infrastructures déjà rares ont été particulièrement atteintes dans cette catastrophe?
Première partie de la question, ce qu'on sait donc sur le nombre de cas, on est plutôt autour de 6000 cas maintenant, parce que jour après jour, il y a des cas qui s'additionnent. On aimerait bien voir bouger maintenant la courbe du choléra, c'est-à-dire que la vaccination a eu lieu. C'était pas 9000 doses, c'était 900 000 doses.
J'ai dit 9000, c'est 900 000 doses, absolument.
C'est 900 000 doses. Oui. Donc, ça s'est passé entre le 4 et le 9 avril. Donc, on est à une dizaine de jours de la vaccination. Donc, on est au moment où on peut espérer voir un effet. Il y a eu une couverture vaccinale importante, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde a été vacciné. et il y a en même temps des actions sur l'eau. Donc l'idée, c'est que le choléra devrait diminuer fortement si ces mesures sont totalement efficaces.
Donc il faut encore attendre, parce qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, début avril, ce sont 900 000 doses qui ont été distribuées à la population. Alors on se dit 900 000, c'est énorme, mais sur une population d'un peu plus de 29 millions d'habitants, c'est très peu finalement. Alors est-ce que c'est vraiment de nature à contenir l'épidémie ?
Alors, on est le choléra fonctionne plus, enfin tout dépend des endroits, le Yémen sera un contre-exemple, mais pour ce qui est du choléra en Afrique, ça fonctionne par ce qu'on appelle des hotspots, des endroits où il y a beaucoup plus de transmission, oui, que d'autres. Et Beira se trouvait être un de ces hotspots connus pour le en ce qui concerne le Mozambique. Donc les 900 000 doses couvrent finalement la population de cette zone connue pour avoir pas mal de cas de choléra.
Vous nous rappelez en quelques mots, Renaud Piarroux, ce qu'est le choléra, parce que aujourd'hui l'OMS estime qu'on a à peu près 100 000 décès chaque année, quelques 4 millions de personnes de cas recensés, mais en France, heureusement, il a totalement disparu, sauf quelques cas importés ça et là. Donc on a un peu oublié ce que c'était. Vous nous rappelez ce que c'est le choléra, comment il s'attrape, comment il se transmet?
Oui, alors c'est une maladie diarrhéique, c'est une bactérie qui est en fait munie d'une toxine, et cette toxine va déclencher une débâcle hydrique au niveau digestif qui va donner des vomissements, de la diarrhée. La diarrhée est tellement forte dans certains cas que on finit par émettre que de l'eau, une eau grisâtre. Et cette diarrhée intense peut entraîner une déshydratation qui peut aller jusqu'à l'état de choc et au décès.
Pour le soigner, donc, réhydratation donc, mais pas seulement.
Réhydratation, les antibiotiques peuvent aider. Mmh. Chez les enfants, on donne aussi du zinc. Bon, ça c'est notre cuisine. Mais donc c'est une maladie, c'est essentiellement une maladie diarrhéique qui a des, qui peut se présenter comme une diarrhée banale ou une diarrhée extrêmement grave. Et concernant par exemple Beira au Mozambique, quand on dit il y a 2000 cas de choléra et 2 décès, qui sont les chiffres officiels du début, puis il y en a peut-être eu quelques-uns de plus depuis, mais ça fait penser que on n'a pas affaire qu'au choléra et on en vient au mode de transmission. Beaucoup de maladies diarrhéiques sont transmises par la consommation d'une eau souillée. Et dans un contexte post-inondation, dans un contexte de pays en développement, de mauvais accès à l'eau potable, peut-être de réseaux qui posent problème avec des infiltrations, ça j'ai pas l'information, mais ça peut être dans d'autres villes quelque chose d'important, et c'est quelque chose à voir à Beira. Dans ce contexte-là, effectivement, un certain nombre de maladies diarrhéiques se transmettent, et la réponse, si on ne la limitée qu'à la vaccination, ne permettrait pas d'agir sur les autres maladies diarrhéiques.
Donc oui, il est important
d'agir sur l'eau en parallèle.
Oui, il y a plein d'autres dangers, le paludisme, la rougeole, la famine, tout ça évidemment sont des dangers qui peuvent peser ce genre de cas, bien sûr.
Là je parle des maladies diarrhéiques et de ce qui a été appelé choléra, c'est-à-dire ces 2000 cas de choléra sont en partie des vrais cas de choléra, mais il y a très probablement d'autres maladies diarrhéiques. Donc la réponse, elle est à la vaccination, parce qu'il y avait les moyens de le faire, mais elle est aussi, peut-être presque surtout, à l'amélioration de l'accès à l'eau.
Alors, on va évidemment beaucoup parler de l'accès à l'eau, Martin Leménager, parce que c'est essentiel pour lutter contre ces épidémies. Mais d'abord, si on regarde un peu de façon générale, on comprend bien, Renaud Piarroux nous a rappelé comment ça pouvait se transmettre, on comprend bien qu'évidemment, dans des pays en voie de développement, des pays pauvres, eh bien, ce sont des terrains plus propices, effectivement, à la propagation de ce type de maladie. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut corréler les choses? Je veux dire, jusqu'où est-ce qu'on peut dire qu'au fond, il y a une corrélation entre l'infection colérique et le développement? Jusqu'où va la corrélation?
Alors,
vous qui êtes membre de l'Agence française de développement, la question du développement, c'est votre affaire.
On ne peut pas forcément faire de lien de cause à effet direct, mais c'est sûr que le choléra est plus répandu dans les pays où l'accès à l'eau potable est faible et où l'accès à l'assainissement est faible. Et de façon globale, le choléra, effectivement, et dans ces pays où il y a du sous-développement, c'est non seulement ce manque d'accès aux services de base, au assainissement qui est gênant, c'est un problème aussi d'accès au système de soins quand le choléra se manifeste. Il faut pouvoir prendre en soin et prendre en charge. C'est également un manque d'éducation aussi à l'hygiène et de à la fois dans les pratiques et dans des choses simples comme le savon, puisque le simple fait de se laver les mains avant de manger permet d'éviter jusqu'à la moitié des maladies diarrhéiques de la transmission. Alors, le choléra se produit dans beaucoup de pays en sous-développement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est surtout un marqueur des inégalités. C'est-à-dire que dans un même pays, c'est surtout les plus pauvres qui ont des mauvaises conditions d'accès, qui sont touchés. Les plus riches, en fait, peuvent facilement s'en prémunir. C'est ce qui fait peut-être que le choléra continue. Et c'est plutôt là un problème politique qui fait que les plus riches, eux, chez eux, ils peuvent chlorer l'eau, la faire bouillir, et ils peuvent se laver les mains facilement. Et aujourd'hui, on ne meurt pas, on ne devrait pas mourir du choléra, comme le disait le professeur Pierre Roux. C'est de la déshydratation. Si on se réhydrate,
ça se soigne assez facilement. Dans ce type de cas, comme le Mozambique, avec une catastrophe naturelle, qu'est-ce qu'il existe comme réponse rapide en termes d'accès à l'eau, des systèmes de filtres à pompe, des solutions chloriques? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas d'urgence? On va voir tout à l'heure, sur le long terme, ce qu'on peut penser, comment mieux développer les réseaux, mais en cas d'urgence, la riposte rapide, on peut faire quoi pour l'accès à l'eau?
Alors, la riposte rapide, elle doit être préparée partout, même chez nous, en France, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une pollution dans la Seine ou ailleurs. Il est arrivé à une époque, d'ailleurs, sur la Loire, voilà, une pollution chimique. Hop, tous les captages doivent être fermés. Bon, il faut prévoir ces situations-là. Et les inondations sont fréquentes. Le cas de Béra, c'est une inondation. Ça fait quoi? Ça pollue les captages. Ces inondations, elles charrient, elles remettent en suspension des eaux usées, etc., de toutes sortes de produits. Donc, il faut pouvoir, le temps de l'inondation, effectivement, distribuer une eau propre. Et donc, ça passe très souvent par des systèmes en conteneurs, des bouteilles.
France, on va purifier l'eau qui a été souillée.
C'est assez difficile. Évidemment, on essaye de se protéger, notamment protéger les captages pour qu'en cas de montée des eaux, ils ne soient pas contaminés, d'une part. Mais sinon, ça va être notamment de prévoir aussi des stocks d'eau en bouteille, voilà, qui ne sont pas contaminés. Après, il existe des moyens de traitement, mais qui sont des traitements un peu exceptionnels qu'il faut déployer. On appelle ça multibarrière parce que suite à cette inondation, vous voyez bien les images, c'est de l'eau boueuse qui est partout dans la ville, et ça à traiter, c'est assez compliqué.
Renaud Pierrot.
Oui, dans l'extrême urgence, quand on se trouve face à des situations comme ça. D'abord, on peut participer, envoyer des équipes qui vont aider les différentes familles à chlorer leur eau à domicile. Donc il y a des kits qui sont distribués, des seaux, des systèmes de chloration qui sont distribués et des explications qui sont données. Et c'est des choses qu'on fait pour avoir un effet extrêmement, vraiment immédiat. Du jour au lendemain, si on arrive à protéger l'eau à domicile, on a montré que ça donne un résultat, ça limite la transmission.
Et aujourd'hui, on est en capacité justement d'avoir ce type de réponse parce qu'il faut être extrêmement rapide là.
Ça a été un petit peu concurrent, en fait, de ce que j'ai compris, les quelques personnes que j'ai vues hier avant-hier, parce qu'on avait une réunion sur le choléra au niveau mondial. Certaines revenaient du Mozambique. Il y a eu un peu une concurrence avec la vaccination, c'est-à-dire que c'est un peu les mêmes types d'équipes qui peuvent organiser une campagne de vaccination ou de la distribution de comprimés de chlore.
On fait tout en même temps. On fait tout en même temps.
Il faut pouvoir faire tout en même temps, mais ça demande beaucoup de monde. Et donc, en tout cas, c'est des choses qui peuvent être faites et dont on espère un résultat immédiat, c'est-à-dire que si les gens ont pris une eau qui est contaminée, pour peu qu'elle soit un petit peu décantée, en chlorant l'eau, on limite la transmission. Et à côté de ça aussi, il est possible de mettre de manière provisoire, ça a été fait sur l'épidémie récente au Zimbabwe, de mettre des unités de traitement de l'eau ou de mettre des réservoirs, des petits réservoirs pour que les gens aillent se fournir en eau là où il n'y a pas de système d'adduction, etc. Et ça peut être fait aussi très rapidement.
C'est des moyens évidemment humains, des moyens matériels, mais tout cela doit s'accompagner aussi d'une grande sensibilisation. Si on regarde par exemple le cas du Mozambique, il y a une véritable campagne de sensibilisation, d'information avec des gens qui vont voir effectivement dans les villages pour expliquer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on utilise les kits, etc. C'est essentiel, il ne faut pas oublier cette dimension informationnelle. Martin Leménager.
Oui, je souhaitais bien mettre en relief le fait que pendant la période de l'urgence, il n'est pas possible de traiter de l'eau en grande quantité. Finalement, la distribution collective, à ce moment-là, elle est pas forcément, enfin, elle peut être mise en défaut. Et du coup, on revient à des solutions individuelles. Voilà, chaque famille peut effectivement, de façon très simple, chlorer l'eau, ou alors un petit peu plus à l'échelle d'un quartier, avec un système de traitement, un petit réservoir, qui va permettre de distribuer l'eau dans le quartier. Mmh. Et ça, des équipes d'urgence, effectivement, savent le faire. Mais quand on parle individuel, effectivement, chaque individu peut avoir des comportements différents. Et donc, on peut donner du chlore à toutes les familles. Certaines vont dire, le chlore, ça sent mauvais dans mon eau. Je préfère boire de l'eau de la nature, et même si elle porte plus de bactéries que de l'eau chlorée.
On va parler du Yémen. Depuis le printemps 2015, l'Arabie Saoudite mène une opération militaire au Yémen à la tête d'une coalition internationale. Le pays connaît depuis une catastrophe humanitaire gravissime, avec des populations confrontées à la malnutrition, à la famine, mais aussi à une épidémie de choléra. Il y a 2 ans notamment, il y avait une grosse épidémie de choléra avec plus 1 million de cas.
Il a commencé à avoir la diarrhée et à vomir. Nous l'avons emmené dans une clinique où on nous a conseillé d'aller dans un hôpital qui s'occupe des cas de choléra. Nous sommes arrivés ici hier et on nous a donné des sels de réhydratation. Mais il ne va pas mieux.
Le choléra est mortel parce qu'il est très contagieux, il se répand très vite. Il est transmis par l'eau et par la nourriture contaminée. À cause de la crise, du conflit, la plupart des habitants du Yémen n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas de nourriture saine ni de savon pour se laver les mains.
Voilà, extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur Arte en 2017. Renaud Piarou, récemment, l'OMS a rendu un rapport dans lequel elle évoque une recrudescence des cas de choléra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation aujourd'hui s'agissant de cette épidémie de choléra, et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette recrudescence ?
Alors, en fait, ça fait maintenant 3 ans qu'il y a du choléra au Yémen. Il y a eu d'abord une petite épidémie qui s'est pas totalement arrêtée, puis cette grande flambée. Alors, on parle 1 million de cas, mais là, c'est toujours la même chose. C'est 1 million de cas de diarrhée aiguë, dont une partie était du choléra. Et à la suite de ça, ça s'est amélioré, mais ça s'est pas arrêté. Mmh. Il y a toujours eu un fond de choléra parce que il n'était pas possible d'agir sur les causes initiales, c'est-à-dire destruction des réseaux d'eau, guerre, déplacement, famine, etc. Donc il y a un contexte extrêmement défavorable à la santé publique au Yémen lié à la guerre. Mmh. Et puis depuis quelques semaines, effectivement, on voit émerger une nouvelle vague de choléra de grande ampleur à nouveau, qui pourrait effectivement être une vague de plusieurs centaines de milliers de cas, un petit peu comparable à celle qu'on a eue il y a 2 ans, ou peut-être un peu moins, mais en tout cas c'est une vague de grande ampleur et qui diffuse à une grande partie du pays.
Et qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation avec une telle crise sécuritaire ? En octobre dernier, l'OMS avait distribué un certain nombre de vaccins, là aussi 306 000 personnes avaient été vaccinées, dont 160 000 personnes, c'était notamment avec l'UNICEF que toute cette opération s'était passée, mais évidemment on voit bien que pour ce genre d'opération, il faut négocier une trêve, c'est ce qui s'était passé à l'époque. Donc en gros, sans solution politique durable, on ne peut pas penser à éradiquer le choléra. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation ?
Pas grand-chose, parce qu'il y a énormément il y a énormément de cas. On peut traiter, d'abord, il faut faire en sorte que les gens n'en meurent pas. Donc ça, c'est le point essentiel dans une crise quand elle a cette ampleur. Et puis, la solution, elle est politique. Tant qu'il y a des bombardements, tant qu'il y a la guerre, c'est très compliqué d'intervenir. C'est... Les bombardements détruisent les réseaux, on les répare, ils sont redétruits. Ça n'a pas de sens.
Martin Leménager, sur le Yémen.
Oui, effectivement, il y a 2 approches. Il y a ce qu'on peut faire là, à court terme, dans l'urgence, c'est prendre en charge les malades, distribuer des savons. Vous évoquiez pénurie de savon pour se laver les mains. Et puis, à long terme, malheureusement, effectivement, aujourd'hui, la situation est bloquée tant que la situation politique... empêche de construire des infrastructures durables.
Alors justement, il y a un débat, et au fond, deux approches pour lutter contre l'épidémie de choléra. Il y a d'un côté, au fond, ceux qui préconisent la riposte directe, rapide, que ce soit la vaccination, que ce soit les kits de chloration, de filtration, la question de la sensibilisation à l'hygiène, etc. Et puis, il y a l'autre approche qui prône peut-être une amélioration donc des réseaux, plus sur le long terme. Quels sont, au fond, les avantages et les inconvénients des deux? Est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre? Et où est-ce que vous vous situez, vous, dans ce débat, Martin Leménager?
Alors, moi, je travaille pour l'Agence française de développement, qui est l'établissement public qui met en œuvre la politique du gouvernement français pour le développement. Donc, voilà, on finance des projets de long terme dans les pays. Ce qui n'empêche pas que ces dernières années, l'AFD travaille un petit peu plus à la prévention des crises et à travailler sur les fragilités, les vulnérabilités pour essayer de prévenir les crises. Mais le travail de fond de l'AFD, c'était de travailler voilà sur le long terme. Alors on n'oppose pas du tout l'urgence d'aujourd'hui et la construction de demain. Les deux doivent être faites. Et même aujourd'hui, on a un petit peu évolué de ce qu'on appelait avant de passer de l'urgence au développement. Aujourd'hui, on dit que la frontière entre les deux est beaucoup plus ténue, puisque il y a des urgences qui persistent. Et donc, quand on est depuis 10 ans dans l'urgence, quand vient le développement? Donc, il faut mener les deux approches de fond. Peut-être la distinction qui a pu être faite, c'est notamment avec les vaccins. Et c'est vrai que, moi je dirais, en travaillant dans le développement, personnellement, on a l'impression de voir que tout ce qui est urgence, crise, forcément passe mieux dans les médias, même si à force de crise, on finit par être un petit peu peut-être lassé, désabusé. Et les efforts de long terme sont plus difficiles à communiquer, malheureusement.
À vendre, entre guillemets. On va voir justement ce qu'il y a en la matière, et notamment vous participez à un projet en République démocratique du Congo, dans le sud Kivu en l'occurrence, un projet qui s'appelle Uvira, du nom d'une ville de la région. On va en parler dans un instant. Mais Renaud Pierroux, sur cette difficile articulation entre l'urgence et le développement.
Pour compléter, parce que totalement d'accord avec ce qui a été dit. Pour compléter, il y a des situations qui sont des situations ponctuelles dans le temps, des situations de crise ou dans un contexte de développement pas forcément calamiteux, une épidémie de choléra arrive. Ça vaut le coup de mettre en œuvre les actions d'urgence et à la fois la vaccination, la distribution de produits chlorés, la distribution d'eau, la distribution de savon, l'hygiène, etc. Donc là, quand une grande épidémie survient et qu'on a accès aux patients et aux populations, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre immédiatement. Dans certains cas, bon, c'est juste un épisode passager. Dans d'autres cas, et ça nous amènera vers Uvira, en faisant des travaux épidémiologiques, on s'aperçoit que certains endroits, ce sont nos hotspots, sont des zones où le choléra va venir régulièrement. De chaque saison des pluies, il y a une nouvelle flambée de choléra. Et là, c'est vrai que on peut pas répondre que par un mécanisme d'urgence. Ça finit par être extrêmement coûteux et très peu utile à long terme. Et c'est vraiment une indication pour prioriser des actions de, par exemple, de mise en place de réseaux d'eau, de fourniture d'eau, etc.
C'est exactement ce qui se passe du côté d'Uvira. On va en parler tout de suite, Martin Leménager. Uvira, donc cette ville assez grande d'ailleurs, du sud Kivu, j'allais dire petite ville, mais non, c'est quelques centaines de milliers d'habitants, 300 000, quelque chose comme ça.
On estime 250 000 aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Qui est donc dans le sud Kivu, qui est une région qui est en proie à des violences depuis au fond des décennies. C'est l'un des foyers endémiques du choléra, ce qu'on appelle effectivement les hotspots, vous l'avez dit tout à l'heure, des sites d'où partent régulièrement des épidémies. Vous nous présentez un peu, Martin Leménager, ce projet de réhabilitation ou de construction en fait de réseaux d'eau et le bilan qu'on peut tirer de cette expérience aujourd'hui?
Oui, alors je peux présenter l'histoire. Le projet est encore en cours, donc les leçons, on en tire au fur et à mesure, mais on ne peut pas encore tout à fait conclure. L'histoire de ce projet, alors c'est un partenariat entre plusieurs acteurs. Vous évoquiez juste avant la coordination entre les acteurs de l'urgence, de l'humanitaire. Ce projet-là, il naît en fait de ça, notamment d'ONG d'urgence, Oxfam, qui intervient tous les ans sur des fonds onusiens pour faire de la riposte aux épidémies de choléra. Et cette ONG, bah, à un moment, elle se fatigue, elle se questionne, elle se dit mais à quoi bon tous les ans revenir distribuer du chlore, réexpliquer aux personnes qu'il faut qu'elles chlorent pour éviter le choléra. Bon. Et cette ONG se rapproche de la fondation Veolia, donc qui a été mise en place dans le groupe Veolia et qui... à partir de 2005, a monté un projet pour mieux connaître la propagation du choléra, notamment dans la région des Grands Lacs. Et c'est dans ce cadre-là que la Fondation Veolia, dont le métier est plutôt effectivement de distribuer de l'eau, hein, et c'est ce que c'est que distribuer une eau potable dans un réseau, et la Fondation avait la conviction que pour lutter durablement contre le choléra, il fallait mettre en place des vrais projets de long terme.
Alors à quoi ressemblent justement ces projets ?
Eh ben, je dirais ce projet, finalement, il est assez classique. Il est assez classique, c'est-à-dire renforcer le captage d'eau, le traitement, la production. Ce sur quoi on insiste particulièrement, c'est la continuité de la distribution. Il faut savoir que la communauté internationale s'est fixée donc des nouveaux objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et en ce qui concerne l'eau, on vise particulièrement à faire attention à la qualité de l'eau qui est distribuée et aux coupures. Voilà, les premiers enseignements qu'on a pu avoir, c'est que, à travers une étude d'impact scientifique, c'est que lors des coupures d'eau de plus d'un jour, il y avait recrudescence des cas de choléra dans la ville d'Ouvira. Et donc le projet travaille à renforcer les capacités de traitement, de stockage aussi, pour que, en fait, une coupure d'eau, c'est quoi ? C'est une coupure d'électricité. Mais c'est pour que quand il y a coupure d'électricité, il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir de la ville pour qu'il y ait une continuité de la desserte en eau.
Faut peut-être dire un tout petit peu à quoi ça ressemble, en fait, la distribution d'eau du côté d'Ouvira, parce que, évidemment, nous, on ouvre le robinet de la cuisine, et voilà, là, c'est un peu différent. C'est, en gros, des points bornes collectifs qui sont partagés vers lesquels on va pour remplir ces jerricanes. On parle de ça.
Alors, c'est ce que le projet va mettre en place. Aujourd'hui, c'est pas...
Ah, il y en a quelques-uns qui sont déjà en place. J'ai vu un site très bien fait hier avec quelques premiers projets, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, en réalité. C'est pas un seul projet de point borne. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont déjà en place.
Il y en a plusieurs. Voilà. On travaille. Alors, je vous ai évoqué le fait de traiter l'eau, de la stocker dans des réservoirs. Donc après, il faut des tuyaux pour desservir. Et le plus important, évidemment, c'est la façon dont les usagers, les consommateurs d'eau, vont pouvoir se servir. Et là, il y a souvent soit des branchements particuliers pour une famille, soit des branchements collectifs, ce qu'on appelle des bornes fontaines, mais dont la gestion peut parfois poser problème. Les gens se querellent en faisant la queue, en payant ou non. Donc le projet travaille aussi sur cette dimension communautaire. Voilà, la ville d'Ouvira, elle est en fait juste à côté de Bujumbura, donc tout près du Burundi, du Rwanda. Il y a beaucoup de communautés qui ont immigré ici. Voilà, il faut aider à recréer de la cohésion de quartier.
D'où évidemment, Renaud Piarou, l'importance extrêmement prégnante d'associer les populations locales. Il ne s'agit pas seulement d'aller mettre un point d'eau auquel tout le monde va pouvoir puiser, il s'agit aussi de rassembler les conditions, j'allais dire quasiment politiques, d'un point de vue local, pour que justement ensuite on puisse réguler ces points d'eau.
Je vais remonter encore un peu avant, ouais, dans la genèse du projet d'Ouvira pour répondre, et puis pour expliquer la situation, parce qu'avant même qu'il y ait ce projet, j'ai été amené de travailler avec des collègues épidémiologistes congolais, justement à la compréhension globale sur l'ensemble du Congo, du fonctionnement du choléra, ce qui nous a amené effectivement à aller vers l'est du Congo, dans la zone qu'on appelle la zone des Grands Lacs. Et Ouvira est une ville qui est au nord du lac Tanganyika. Donc on s'est retrouvé là, et on s'est retrouvé là face à une problématique effectivement de qualité de l'eau à l'intérieur d'une ville. Et en fait, la ville d'Ouvira est traversée par trois rivières, une espèce de torrent. Mais quand on marche le long du torrent, il y a toutes les zones de défécation qui se trouvent là. Donc, dès qu'il pleut, cette eau est contaminée. Et comme il n'y avait pas assez d'eau pour distribuer... donc ça, c'est avant le projet. On est dans les années, effectivement, 2006, 2007, 2008. Les gens allaient chercher l'eau dans la rivière. et il y avait un cycle de dans les rivières qui passait, un cycle de contamination. Donc, ce genre de projet, c'est un projet qui doit forcément impliquer la compagnie qui gère l'eau, la régie des eaux, qui s'appelle comme ça d'ailleurs, mais en phonétique. Ainsi que la municipalité et les autorités sanitaires. Et c'est comme ça que ce projet a été conçu et ensuite, effectivement, que la Fondation Veolia a été sollicitée et que l'ensemble s'est mis en place. Et à la limite, dès lors que quelque chose se met en place, les épidémiologistes se sont retirés, s'occupent d'autres choses. Et puis, le projet démarre avec la collaboration de la London School. Mais il faut bien voir qu'il y a dans l'est de la RDC des zones urbaines où les gens continuent à utiliser des eaux de surface. Soit l'eau des lacs, lac Kivu, lac Tanganyika, soit l'eau des rivières. Et c'est d'abord ça le premier problème. C'est d'avoir de l'eau purifiée pour la boisson, surtout en zone urbaine.
On va parler d'Haïti dans un instant, mais pour finir sur ce point-là, Martin Leménager, l'objectif au départ, c'est évidemment de lutter contre l'épidémie de choléra. Mais on parle de développement. On imagine que les objectifs vont au-delà, en réalité. Qu'est-ce qu'on peut attendre? J'ai dit tout à l'heure, c'est une région, faut comprendre, hein, ça fait des décennies que le Sud Kivu vit dans la violence permanente. Est-ce qu'on attend aussi des retombées sur ce point-là? Et est-ce qu'on peut en attendre?
Oui, tout à fait. Je dirais que le projet n'est pas... alors, il est présenté comme un projet de lutte contre le choléra. Le choléra étant un marqueur fort. Effectivement, si on arrive à faire baisser le cas de choléra, c'est significatif. Mais c'est un projet important de service public de base. Et on sait aujourd'hui que, notamment la confiance des citoyens dans son État, dans son administration, dans la capacité de l'État à gérer le pays, à le conduire vers le développement, voilà, ça passe par le fait d'avoir accès à des services de base. Donc, je vous parlais tout à l'heure aussi de confiance, d'organisation des usagers autour des points d'eau. Voilà, il s'agit de créer des conditions de développement économique et puis l'accès à l'eau, c'est pas que de la santé. D'ailleurs, le choléra, les premiers résultats de l'étude d'impact menée par l'école londonienne montrent que, en fait, on parle de cas suspects de choléra. Il y en a que 40% qui sont des vrais cas de choléra. Mmh. Le reste, c'est des diarrhées fortes. Inversement, il y a beaucoup de gens qui peuvent être porteurs du
mais brio choléra malade.
Et pas forcément malades. Ouais. Donc, la lutte contre le choléra, elle est longue, mais le projet, apportera bien d'autres résultats en termes de développement socio-économique.
Et c'est justement ce deuxième cas qu'on a vu du côté d'Haïti. On va en parler tout de suite. Après le terrible séisme de 2010, Haïti avait été le théâtre d'une épidémie de choléra, alors que le pays n'avait connu aucun cas depuis plus d'un siècle. D'après les enquêtes et les études réalisées sur place, ce seraient des casques bleus népalais qui seraient à l'origine de son importation sur l'île. Ils auraient involontairement souillé un affluent du fleuve Artibonite, près duquel était installé un immense campement de la MINUSTA, la force d'intervention de l'ONU. Et pourtant, malgré ces études, longtemps, l'ONU a nié son implication dans la propagation de l'épidémie, jusqu'à ce qu'en décembre 2016, Ban Ki-moon finisse par reconnaître officiellement le rôle de l'ONU.
Les Nations Unies regrettent profondément les pertes humaines et les souffrances causées par l'épidémie de choléra en Haïti. Au nom des Nations Unies, je veux le dire très clairement, nous présentons nos excuses au peuple haïtien. Nous n'avons simplement pas fait assez en ce qui concerne l'épidémie de choléra et sa propagation en Haïti. Nous sommes profondément désolés pour le rôle que nous avons joué.
Renaud Pierroux, pourquoi ça a été si long? Vous êtes auteur de cet ouvrage qui vient de paraître, Choléra Haïti 2010-2018, histoire d'un désastre. C'est quelque chose sur lequel vous êtes penché et de très près et sur place, puisque vous avez été tout de suite après le séisme sur place justement pour évaluer les choses et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ça a été si long pour les Nations Unies d'admettre et d'excuser, de s'excuser?
Parce que les Nations Unies ne veulent pas payer. Alors, vous avez présenté les choses d'une manière assez diplomatique. Je vais être plus factuel.
Allez-y.
D'abord, effectivement, pourquoi je suis allé sur place? Parce que l'ambassade de France me l'a demandé, en fait, à relayer une demande du gouvernement haïtien d'avoir une expertise non américaine et non liée à l'ONU à propos de cette épidémie et de les aider aussi à s'en débarrasser. Oui, c'est arrivé involontairement. Personne n'a jamais voulu que les soldats népalais amènent le choléra. C'est pas quelque chose de voulu. Par contre, c'est une série de fautes et de fautes graves. Il y avait une épidémie de choléra au Népal. Avant de partir, les soldats népalais ont tous été lâchés en permission. Donc, il y avait un peu plus d'un millier de soldats népalais qui allaient venir, plus des policiers, plus de 1200 personnes en tout. Tout le monde était en permission, regroupé, pas réexaminé, pas testé,
par négligence,
pas vacciné.
Par négligence. Ouais,
c'est plus que de la négligence. Ce sont des fautes. Quand on a une épidémie de choléra quelque part et qu'on s'apprête à faire voyager 1200 personnes de cet endroit-là vers une zone extrêmement vulnérable au choléra, et tout le monde le savait, ça, ce sont des fautes importantes. Puis il y a eu quelque chose qui paraît incontournable. Il y a eu des cas de choléra chez ces soldats. Il y a eu le remplissage des fosses septiques d'un des camps par un liquide grouillant de bactéries du choléra. Et il y a eu, le ministre de la Santé me l'a confirmé un peu plus tard, le déversement de cette fosse septique dans l'affluent du plus grand fleuve d'Haïti, ce qui a provoqué du jour au lendemain des dizaines de milliers de cas et des milliers de décès. Pas mal de fautes quand même. C'est pas une introduction involontaire par un porteur asymptomatique ou quelque chose comme ça. Mais l'ONU, après cette histoire-là, a tout fait pour se cacher derrière des théories attribuant le choléra au réchauffement climatique, à des problèmes environnementaux.
Mais on a fait des études scientifiques, supposément scientifiques, justement, pour étayer cette thèse-là. En fond, c'est l'émergence de ce choléra, c'est tout à fait naturel, c'est lié aux conséquences du dérèglement climatique. C'est ce qu'on a essayé de faire croire.
Et c'était d'autant plus...
Il y a un scandale politique, mais un scandale scientifique, vous dites.
C'est d'autant plus facile de générer ce scandale scientifique que l'ONU a modifié l'histoire de l'épidémie pour la faire démarrer ailleurs. C'est-à-dire que quand on voit la séquence des cartes produites par OCHA, qui est l'organisme de coordination des affaires humanitaires, ou par la PAO, la Pan American Health Organization, l'OMS locale, ou par la MINUSTA, toutes concordent pour essayer de faire démarrer l'épidémie dans le delta du fleuve Artibonite, plutôt qu'à proximité. Donc les 2000 premiers cas, première semaine, 2000 cas autour d'une ville au centre d'Haïti qui s'appelle Mirbalay, sont effacés. L'ONU savait très bien à propos de ces cas, et c'était histoire de se dédouaner.
Vous expliquez dans votre livre, Renaud Piarou, qu'au départ, les autorités haïtiennes ne vont pas prêter une grande attention à cette épidémie de choléra, notamment le président de l'époque, René Préval. Alors après, ça va être un peu différent, justement. Il va particulièrement s'intéresser à votre cas, vous allez vous rencontrer plusieurs fois. Mais pourquoi dans un premier temps, alors même que c'est un enjeu sécuritaire? C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler que au moment de l'émergence de cette épidémie, ça va produire chez les populations locales. Alors il y a évidemment toutes ces personnes qui... pense qu'il y a eu une intention au fond d'empoisonner les Haïtiens, mais ça va générer de véritables tensions. Il faut se rappeler qu'il y a des émeutes à ce moment-là contre les soldats de l'ONU. Pourquoi est-ce que dans un premier temps, alors que c'est un enjeu sécuritaire, le gouvernement haïtien n'a pas l'air de prendre les choses à la mesure du défi, et pourquoi ensuite ça change?
Alors c'est pas qu'il prend pas les choses à la mesure du défi. Il a un comportement étrange. Personne, passé les deux premiers jours, plus personne au gouvernement haïtien ne parle de la cause de cette épidémie. Ça sort complètement du champ des médias, etc. Alors que là, par exemple, on a eu l'incendie de Notre-Dame, on se demande d'où ça vient, etc. Tout le monde en parle. Et là, c'est sorti immédiatement. C'est sorti immédiatement parce qu'il y a eu des pressions. C'est pas on en discutait avec des collègues haïtiens puisqu'ils étaient là à la réunion de l'OMS. Il y a eu des ils ont un voisin qui est très puissant et le gouvernement Haïti ne fait pas ce qu'il veut. C'est un peu ce biais là qui a fait que je me suis retrouvé à investiguer cette épidémie parce que c'était la manière pour le gouvernement haïtien de faire savoir ce qui s'est passé. ça aurait de toute façon pas été crédible si le ministre de la Santé d'Haïti avait dit ce que disent les scientifiques, l'OMS, les agences des Nations Unies à propos de d'un démarrage dans le bas de l'Artibonite, donc dans une zone de delta, et le fait que ce n'est qu'une rumeur, cette histoire de soldats népalais, c'est pas vrai, nous on a regardé et on sait que c'est là. Personne n'aurait cru. Donc, il fallait une expertise, il fallait un appui extérieur, il fallait une méthodologie. Ils avaient besoin de ça.
Et à l'époque, on était aussi en période de campagne.
Il y avait une campagne électorale, ça n'arrangeait pas les choses. Et en plus, il y avait des tensions assez fortes entre les États-Unis et le gouvernement haïtien. Et très clairement, le gouvernement haïtien était proche de Cuba, proche du Venezuela. Ça plaisait pas beaucoup aux voisins.
Vous nous dites où on en est aujourd'hui de l'épidémie de choléra ?
Alors, ben justement, les 6 mois qui ont servi à essayer de tourner autour du pot ont gêné la lutte. On gênait la lutte parce que dès lors qu'on dit que c'est d'origine environnementale, le réchauffement climatique, on ne pouvait pas poser un objectif d'élimination. Et puis après les excuses de Ban Ki-moon, là tout d'un coup, l'ONU avait besoin aussi d'un objectif d'élimination. Et ces derniers jours, on a passé pas mal de temps au niveau de l'OMS, dans cette réunion inter-OMS et d'autres organisations, à montrer le succès d'une approche qui a été mise en œuvre difficilement vers 2013-2014, mais surtout renforcée à partir de 2017. Et nous n'avons plus de cas de choléra en Haïti. On est sur le chemin de l'élimination. Mais ça veut dire que ce combat pour faire savoir la vérité, ces 6 années passées à ça ont été 6 années de perdu pour aller vers l'élimination. On aurait pu aller beaucoup plus vite.
Alors évidemment, c'est un combat aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que c'est un combat. On va faire un peu de perspective historique, prendre un tout petit peu de champ. 11h40, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Allongez-vous. C'est moi qui vous parle. Allongez-vous, je vous dis, vos jambes. Vous avez froid aux jambes?
Mes jambes vont très bien, foutez-moi la paix.
Restez tranquille. Regardez-moi, vous êtes tout blanc. Montrez-moi votre œil. Vous sentez si je vous pince?
Mais arrêtez!
Buvez ça!
Qu'est-ce que c'est?
N'ayez pas peur, je suis médecin. Allez, buvez! Allez-y, franchement! Je tiens le bouquet avec ça depuis 3 jours. Vous étiez là, dans le village?
Oui.
Il y a des malades?
Non, des morts, il y a des morts partout.
Vous les avez touchés?
Touchés? Non, j'ai voulu les...
Restez là! Bougez pas! Occupez-vous des chevaux, je vais voir! Mais, qu'est-ce que je vous dis qu'ils sont tous morts? Il y en a qui se cachent. À la Baume, j'en ai trouvé un dans un pigeonnier. C'est partout pareil.
Mais quoi, qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le choléra, mon vieux, le barbus asiatique. Vous tombez de la lune ou quoi? Le plus beau débarquement de choléra qu'on ait jamais vu.
Vous avez reconnu un extrait du Hussard sur le toit réalisé par Jean-Paul Rapneau, sorti en 95 avec François Cluzel dans le rôle du médecin, Olivier Martinez dans celui du colonel Angelo Pardi, un film adapté évidemment du roman de Jean Giono, publié en 1951, dont le récit se déroule dans une Provence en proie à une épidémie de choléra. On est au début des années 1830, on est donc dans la seconde vague, parce qu'il y a eu beaucoup de vagues, de grandes pandémies de choléra, les historiens en recensent 7. Bonjour Sylvia Chifolo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne justement chargée de recherche au CNRS et puis auteur de cet ouvrage « Genèse de la santé publique internationale, de la peste d'Orient à l'OMS » qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Et dans votre livre, Sylvia Chifolo, vous refaites l'histoire des pandémies de choléra et vous observez comment s'est construit au cours du temps la santé publique internationale, c'est-à-dire l'institutionnalisation de la santé internationale. Et vous semblez dire que les dispositifs sanitaires internationaux qui sont mis en place au cours du 19e siècle, ils sont peut-être ils ont moins comme objectif de traiter les malades des pays concernés que d'éviter précisément la diffusion de la pandémie. En gros, si on prend des mesures, c'est pas forcément pour soigner, mais c'est surtout pour se protéger, et en particulier pour protéger l'Europe.
Oui, pour protéger l'Europe, bien sûr, et parce que aussi on ne savait pas soigner. Il y avait beaucoup trop d'inconnus sur l'origine de la maladie, son étiologie, donc c'était difficile. Il n'y avait pas de vaccination, du moins au moment de l'émergence de cette nouvelle maladie, donc qui est le choléra, qui sort pour la première fois de l'Inde en 1817 et surtout ensuite en 1830. À ce moment-là, on est démuni, on n'a pas de moyens de soigner. Donc, eh bien, c'est le vieux réflexe hérité du Moyen Âge de se protéger, donc d'empêcher la circulation ou de contrôler la circulation des gens, de les enfermer pour voir l'évolution de la maladie.
Et quelles sont les premières grandes décisions sanitaires qu'on va prendre avec une approche, j'allais dire, réellement multilatérale ?
Alors ça a été très long à se mettre en place. En fait, le paradoxe, c'est que justement le problème des épidémies a été la première cause qui a incité la communauté internationale à devenir ce qu'on appellera effectivement la communauté internationale, c'est de se mettre ensemble autour d'une table pour discuter de problèmes communs. Donc les épidémies sont apparues surtout ce choléra de 1830 comme un problème à partager et donc à discuter ensemble. Mais simplement, les oppositions étaient telles que ça a mis très longtemps à aboutir. Il y a eu plusieurs conférences sanitaires internationales dont beaucoup avaient le choléra comme au cœur de leurs préoccupations. Mais ce n'est que en 1892, donc après plusieurs de ces conférences, qu'on a abouti à une première législation internationale. Mais par contre, il y a eu des modalités de lutte qui se sont mises en place antérieurement et avant donc la mise en place de cette législation internationale.
Donc ça met quasiment 40 ans, puisque la première conférence sanitaire internationale, qui se déroule d'ailleurs à Paris en 1851, et c'est là où font les prémices de cette diplomatie sanitaire internationale. Alors, il y a évidemment ce volet-là, c'est-à-dire cette institutionnalisation de la santé internationale, mais il ne faut pas oublier qu'on est en plein contexte colonial et que les logiques de domination vont aussi s'illustrer dans le domaine de la politique sanitaire. Et c'est l'exemple, par exemple, qui vous a beaucoup intéressé, vous, Sylvia Chifolo, du pèlerinage à la Mecque, qui fera l'objet d'un contrôle extrêmement strict, extrêmement serré de la part des puissances occidentales. Le Hadj, c'est le pèlerinage à la Mecque, il va apparaître comme un facteur démultiplicateur des épidémies colériques, et donc il va falloir le maîtriser, le contrôler.
Absolument. Donc les deux premières pandémies, les 1830-1850, le choléra est passé par la voie du Nord, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'Asie centrale, la Russie, pour arriver jusqu'en Europe. La nouveauté du choléra, de la pandémie de 1865, c'est que c'est effectivement le choléra à la Mecque qui devient le hub de redistribution de la maladie. C'est dû à l'amélioration des moyens de transport. À ce moment-là, on va plus vite et donc la contamination est plus rapide. Donc c'est ce qui est un enjeu, un facteur important, évidemment. Et donc, le choléra est originaire d'Inde, donc des pèlerins indiens sont arrivés contaminés à la Mecque et ensuite ont contaminé leurs coreligionnaires qui se sont ensuite rediffusés dans tout le bassin méditerranéen et au-delà. Donc, c'est apparu à partir de 1865 comme la masse mouvante à contrôler au plus étroit de façon à empêcher donc cette contamination. Donc, il y a eu effectivement tout un dispositif très spécifique appliqué aux pèlerins.
Dans l'article consacré au choléra à la Mecque, dans l'ouvrage collectif « L'histoire du monde » qui est paru chez Fayard, vous écrivez la chose suivante. « Le danger sanitaire désormais associé au pèlerinage se combine à cet enjeu politique pour donner naissance à l'idée d'une double contagion par le choléra et par le panislamisme à laquelle seraient exposés les pèlerins de la Mecque. » Donc non seulement la Mecque risque d'exposer les pèlerins au choléra, mais en plus, il risque de les exposer à la radicalisation sur le plan religieux.
Alors en fait c'est la politique qui a été la plus inquiétante en premier, c'est-à-dire que on a utilisé ensuite la métaphore médicale pour exprimer cette contamination que les puissances coloniales craignaient que le fait que leurs sujets musulmans aillent à la Mecque se retrouvent entre eux et puis se montent des projets politiques contre la colonisation. Ça a toujours été une crainte récurrente et du coup ensuite à partir de 1865, donc on a volontiers utilisé effectivement cette métaphore médicale pour exprimer cette double crainte. En fin de compte, les pèlerins sont doublement dangereux.
Voilà, ça va au-delà de la métaphore, puisque très concrètement, pour lutter contre ce risque, je mets des guillemets, d'une fanatisation, je remets des guillemets, des musulmans sous administration coloniale, les puissances coloniales vont prendre un certain nombre de mesures, voire carrément interdire le voyage à la Mecque.
Alors ça, c'est assez spécifique à la France. La France a eu une politique justement d'interdiction, en particulier pour les Algériens, du pèlerinage à la Mecque, justement dès qu'il y avait un risque épidémique. C'était le sujet qui était mis en avant, alors même qu'effectivement leur crainte était qu'ils aillent donc se politiser en quelque sorte auprès de leurs coreligionnaires. Mais les autres grandes nations coloniales, la Grande-Bretagne et la Hollande, n'ont jamais eu cette politique d'interdiction. Mais il y avait des contrôles évidemment qui s'organisaient et puis surtout donc un dispositif de lazaret, de mise en quarantaine spécifique aux pèlerins qui a été mis en place sur la mer Rouge.
Et puis en retour, plus les puissances coloniales imposaient des mesures aux musulmans pour des raisons supposément sanitaires, enfin pas seulement sanitaires en tout cas, et plus le sentiment de cohésion et d'union des populations musulmanes se renforçait. Et c'est aussi ça qui a participé au renforcement de cette idée de Oumma musulmane, la communauté des musulmans.
Oui, certainement. Enfin, c'est plus le fait justement d'avoir la possibilité de voyager et de se rencontrer qui crée là les conditions de ce resserrement de la Houma. Après, évidemment, il y a
bien d'autres choses, bien sûr.
Pardon.
Il y a bien d'autres choses, si ça vous voulez venir, c'est pas seulement ça.
Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. C'est simplement, effectivement, la métaphore médicale et la réalité aussi, évidemment, du danger médical lié à un déplacement de masse, hein, ce qu'on appelait, était bien réel, hein, de toute façon, puisque le choléra était évidemment une menace à chaque fois que les pèlerins se rendaient à la Mecque. Donc, ce contrôle, il a aussi, une raison d'être. Hein. Et puis, il n'est pas uniquement le fait des puissances coloniales, puisqu'elles le font aussi en collaboration avec l'Empire ottoman, qui participe aussi à la mise en place de ce dispositif qui est sur son territoire.
Renaud Pierrot, je ne sais pas si vous avez correctement entendu Sylvia Chifolo par téléphone, mais que vous inspire justement la dimension extrêmement politique de l'affaire. On voit bien qu'au fond, depuis des années, il y a aussi, alors une forme d'instrumentalisation, c'est peut-être un peu exagéré, mais ce sont aussi des questions politiques qu'il y a derrière cette lutte contre le choléra.
Oui, le choléra est un problème politique. C'est un problème d'ailleurs déjà de politique d'urbanisation, de politique générale pour prendre en charge l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement. Et c'est un problème politique quand une épidémie arrive. C'est toujours difficile pour un gouvernement, pour un maire, pour un responsable politique d'assumer une épidémie de choléra. Donc, de toute façon, c'est un problème politique. Et ensuite, on a des problèmes de politique internationale. Évidemment, le choléra, quand il est provoqué par l'ONU, ça monte jusqu'à Ban Ki-moon, comme le secrétaire général de l'ONU. C'est un problème des cinq nations qui sont membres permanents Conseil de sécurité de l'ONU qui décide s'il faut ou s'il faut pas mettre de l'argent dans la lutte contre le choléra quand les casques bleus sont impliqués. Donc c'est de toute façon, c'est pas une maladie comme les autres, elle ne passe pas inaperçue et elle interpelle le politique. Et le politique a sa responsabilité dans les épidémies de choléra.
Martin Leménager, le choléra, une affaire éminemment politique. En guise de conclusion, on arrive presque au terme de l'émission.
Oui, politique internationale, politique nationale, comme je le disais, pour moi, choléra, c'est un marqueur des inégalités. Les riches dans un pays sont dans les beaux quartiers, ont de l'eau propre et savent que le choléra ne se transmet pas à tel Ebola. Ebola a eu beaucoup plus d'impact parce que c'était mal connu. Tout le monde a eu très peur et pour le coup, les décideurs politiques également. Peut-être, si vous me permettez, un petit mot sur le Hussard. 1830, c'est l'époque où notre cher Victor Hugo écrit Les Misérables. Et donc, si le toit s'est effondré, Victor Hugo écrivait également sur les souterrains de Paris. Et je cite, si vous me permettez, un extrait du chapitre 6 du livre 2e, L'Intestin de Léviathan. Qui dit « Le creusement de l'égout de Paris n'a pas été une petite besogne. Les 10 derniers siècles y ont travaillé sans le pouvoir terminer. » Tout ça pour dire que l'accès à l'eau, l'assainissement, c'est quelque chose de long terme. Ça ne veut pas dire qu'il faut doubler, tripler les efforts pour accélérer. Mais il ne faut pas non plus se fixer sur l'urgence quotidienne. Prévenir les crises aussi avec des infrastructures, des institutions et des hommes capables de gérer des services d'eau et d'assainissement.
L'actualité n'est jamais loin. Bravo. Merci beaucoup à Sylvia Chifolo qui était avec nous à l'instant par téléphone. Je rappellerai, Genèse de la santé publique internationale de la peste d'Orient à l'OMS, aux presses universitaires de Rennes. Merci également Renaud Pierrot d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé ce matin sur ces épidémies de choléra. Choléra, justement, c'est le titre de votre ouvrage qui est paru au mois de janvier aux éditions du CNRS. Martin Leménager, merci également. Je rappellerai vous concernant, vous êtes co-auteur d'un ouvrage collectif. Je donne le titre Mémento de l'assainissement, mettre en œuvre un service d'assainissement complet, durable et adapté. On mettra les références de tous ces ouvrages sur la page de Culture Monde pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Merci infiniment, messieurs. 11h53, c'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors votre sujet ce matin, les MOOC pour Massive Open Online Courses. On en attendait des merveilles. Que peut-on dire des premiers résultats, Brice ?
L'économie numérique bouleverse tous les secteurs économiques l'un après l'autre. Certains, comme le commerce ou le tourisme, davantage que d'autres, comme les services à la personne. À quand une rupture technologique dans l'enseignement supérieur ? Demandait l'an dernier Kenneth Rogoff, professeur à Harvard. L'enseignement supérieur est désormais un secteur économique stratégique. Les meilleures universités du monde se battent pour attirer les étudiants. Aux États-Unis, qui détiennent les universités les plus réputées du monde, ce secteur représente un chiffre d'affaires annuel de 500 milliards de dollars, soit 2,5% du PIB américain. Alors pourquoi ce pays, tellement à l'affût des nouvelles innovations technologiques, persiste-t-il à offrir aux étudiants des cours magistraux ennuyeux, alors que l'enseignement secondaire, lui, se convertit progressivement aux techniques de la classe inversée ? Alors je rappelle pour nos auditeurs que dans la classe inversée, les élèves visionnent le cours enregistré par leur professeur le soir, chez eux, au lieu de faire leurs devoirs comme avant, et le temps passé en classe est consacré à interagir, travailler en groupe, contrôler l'assimilation des connaissances, bref, faire ses devoirs ensemble. Et Kenneth Rogoff, célèbre professeur, avait une réponse bien huilée à la question qu'il posait lui-même. Si les cours magistraux étaient dispensés sous forme de vidéo, eh bien une poignée de professeurs très fameux se partagerait le marché au détriment de tous les autres. On connaît la loi de « the winner takes all ». Elle s'applique dans le sport comme dans le show business. Quelques rares gagnants raflent la mise et derrière eux, tous les autres se partagent des miettes. Mais après tout, faisait remarquer Rogoff, c'est déjà le cas sur le marché des manuels d'enseignement. Dans chaque discipline, une dizaine de professeurs dominent le marché. Soyons lucides, ajoutait-il, le corps universitaire ne souhaite pas davantage que les autres professions voir la technologie mettre à mal les emplois dans son domaine. Et, à la différence des métiers manuels, les professeurs d'université, eux, exercent un pouvoir considérable sur l'administration. Mais Rogoff prévenait aussi, c'est reculer pour mieux sauter, un changement aura lieu tôt ou tard.
Eh bien Brice, il se peut qu'il se soit trompé.
Eh oui, car à l'heure des premiers bilans, les MOOCs en question, ces cours massifs en ligne, apparaissent assez décevants. Certes, selon ICEF, l'un des principaux cabinets de conseil en éducation supérieure basé à Bonn, il y aurait eu dans le monde, tenez-vous bien, 100 millions d'inscriptions à ces cours en ligne en 2018. Mais selon The Inside Higher Ed, qui est basé lui à Washington, seuls 3% des étudiants inscrits à des MOOCs vont jusqu'au bout de leur cycle universitaire. Et plus inquiétant encore, le nombre d'étudiants inscrits à un cycle qui ne se réinscrivent pas l'année suivante n'a cessé d'augmenter. On ne peut donc pas considérer que la tendance soit favorable, c'est le contraire. Mais le plus attristant dans cette affaire, c'est que les espoirs placés dans la capacité des cours en ligne à aider les pays en développement à combler leur retard en fournissant compétences et diplômes, et bien ces espoirs ont été déçus. Car ce sont les étudiants des pays développés qui ont été les principaux utilisateurs des MOOCs. Ils s'en sont servis pour compléter les enseignements qu'ils recevaient dans leurs universités. Dans la lettre confidentielle en français Phébé, on trouve une analyse d'un article important sur ce sujet qui est paru dans la fameuse revue Science. On y apprend que 52% des étudiants inscrits dans un MOOC n'ont suivi aucun cours du tout. L'auteur de cet article, Pedro de Bruquière, explique cette désillusion par ce qu'on appelle le cycle du hype. Hype pour hypermédiatisation. Après le lancement d'une technologie disruptive, phase 1, vient le temps des attentes exagérées, phase 2. Les nouveaux services ne répondant pas exactement aux attentes survient généralement 2 ans plus tard, le temps de la désillusion, phase 3. Mais si cette technologie nouvelle ne disparaît pas, peut apparaître ce qu'on appelle la pente de l'illumination, qui est la phase 4, qui va inciter des entreprises à redécouvrir certains avantages mal perçus au départ de la technologie en question. Et la phase 5 correspond au développement d'un produit ou d'un service de grande consommation appelé plateau de productivité. Manifestement, les plateformes de MOOCs misent aujourd'hui sur un tel scénario, mais prévient Kenneth Rogoff, toujours lui, cela passera par une remise en cause de la technologie elle-même. Visionner des cours magistraux, même prononcés par les meilleurs professeurs du monde, n'attirera jamais des millions de personnes. Il faut donc réinventer les manières d'enseigner afin de les rendre compatibles avec ces nouvelles technologies. Et c'est là qu'est le défi des MOOCs. William Patrick Leonard, du think tank Rio Grande Foundation, a tout récemment fait, à cet égard, des propositions stimulantes. Les animateurs, écrit-il, ne doivent pas se comporter comme des professeurs, mais comme des instructeurs. Et en ligne, l'environnement n'est pas celui de la classe. En outre, il ne faut jamais perdre de vue la question des décalages horaires.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Et puis dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.